Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Chrétien en marche, aujourd'hui enregistrée au CDI du collège Sainte-Marie-la-Grand-Grange. Avec donc une nouvelle classe de 4e, après les 4e 4 lors du premier trimestre, qui nous avait parlé du 8 décembre et comment s'était approprié cette fête-là, eh bien j'ai d'autres lumières avec moi. Après les bougies du 8, voici les lumières du 6 avril. On va préparer finalement un petit peu les élections présidentielles qui approchent ensemble. Avec ce thème, avant notre journée nationale sur le thème de la transition écologique demain sur RCF, hein, n'oubliez pas, journée nationale demain le 7 avril, eh bien un autre thème aujourd'hui, celui de la solidarité. Voilà, comment aider son prochain? Peut-on aider tout le monde sans limite? Eh bien, nous prendrons le temps d'y répondre avec un œil religieux et laïque, mais aussi surtout un œil jeune avec nos élèves de 4e 9 de Saint-Chamond qui seront les chroniqueurs de votre émission aujourd'hui. Ils sont là, ils sont nombreux et qui vont tout vous dire sur l'état de la solidarité actuellement en France et dans l'établissement. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de la première partie avec Florian, Noah et Charles. Ensuite, comment s'organise la solidarité en France? Eh bien, la réponse à cette question avec Océane et Sydney. Après la solidarité laïque, eh bien, la solidarité religieuse à travers les trois principales religions monothéistes avec Arthur, Margot, Mélissa, Farah et Cassandra. Ensuite, nous rentrerons dans le dur, j'ai envie de dire, avec cette problématique. La solidarité, oui, c'est bien, mais jusqu'où? Dans quelles limites? Toujours dans le respect des lois et de la personne, avec Valentin, Léo, Mathéo, Pierre, Jules, Romain, Rémi, Esther, Eban et Théo, voilà, deux petits groupes qui se succéderont. Et puis on terminera par des exemples concrets de solidarité à travers des portraits de personnages célèbres ou anonymes qui ont contribué avec leurs moyens à une forme de solidarité. Et c'est donc Lorena, Manon, Margot, Chiara et Sarah qui porteront le point final à cette émission. Mais permettez-moi également de présenter notre invité fil rouge tout au long de cette émission. Il s'agit de Myriam Tiblier, la responsable secours populaire à l'antenne Saint-Chamond. Merci Myriam Tiblier d'être avec nous.
Merci de votre invitation.
Et vous allez nous apporter évidemment vos éclairages. Et puis à la technique, nous avons bien sûr Moine Besson qui est toujours là avec tout son matériel. Merci Moine aussi d'être avec nous. Et on va démarrer donc cette émission avec un fait, avec une enquête, avec Florian, Noah et Charles qui sont nos trois chroniqueurs pour cette première partie, qui vont donc démontrer à travers une enquête la solidarité des Français. Après notamment ce qui nous a tous frappé, les récents attentats bien sûr en France et notamment tout récent encore à Londres. Charles, est-ce que tu peux nous décrire cette enquête-là que tu as trouvée qui montre finalement le bon état de la solidarité en France?
Eh bien, l'enquête du Crédoc montre que la plupart des personnes entre 18 et 30 ans a augmenté car ils donnent plus de temps à des associations et cet engagement il a augmenté à cause des attentats de 2015. Et l'engagement des personnes aussi a augmenté depuis 2010 pour le bénévolat et la hausse plutôt des jeunes non diplômés est d'autant plus marquée à cause des attentats de 2015.
On va revenir en France dans quelques instants, mais avant, l'établissement quand même, qui nous accueille aujourd'hui, l'institution Sainte-Marie, ici au CDI, on se mobilise beaucoup.
Il y a un PASS, c'est le programme d'action sociale réservé aux lycéens, c'est-à-dire que les élèves de première ils s'investissent auprès des structures caritatives ou d'associations. Mais aussi après, il y a le soutien scolaire. Les élèves de seconde ou de troisième peuvent aider des jeunes sixièmes qui viennent juste d'arriver au collège. Mais aussi, ça peut s'effectuer avec des terminales envers les troisièmes.
Comment on se mobilise, Florian, au collège?
Des journées de solidarité ont été mises en œuvre à Sainte-Marie-la-Grand-Grange pour aider une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui aide les jeunes Cambodgiens à construire un avenir convenable. Au cours de cette journée, plusieurs activités ont été mises en œuvre. Puis, à midi, un repas a été mis en œuvre pour récolter de l'argent pour cette association.
Vous allez juste écouter rapidement eh bien, notre invitée Marianne Tiblier parce qu'elle apporte son premier éclairage de l'émission. C'est important, après ce qu'on a écouté à partir de nos trois chroniqueurs, de s'y prendre très tôt finalement et de pouvoir déjà transmettre cette solidarité-là.
Tout à fait. Alors mon rôle premier, en fait, je suis responsable enfance et jeunesse. Je connais très bien le PASS puisque je suis référente sur les premières ici.
Alors le PASS, c'est quoi?
C'est le projet d'action sociale. Et donc on accueille toutes les vacances des lycéens qui viennent nous aider dans l'organisation de manifestations, mais aussi pour accueillir plus dignement les gens qu'on reçoit. Il y a des choses qui m'ont marqué, fait que je voulais encore souligner. Les attentats, ils ont aussi fait reconnaître quelque chose, c'est que la solidarité, elle n'a pas de religion. Et il y a des choses merveilleuses qui se créent quand on rencontre des petits jeunes comme eux qui ont plein de projets.
Allez, on va maintenant enchaîner du coup avec l'autre groupe, le deuxième groupe. Merci à vous en tout cas, Florian, Noah et Charles, d'avoir fait leur baptême, finalement leur baptême du feu, un petit peu en radio. Après leur reportage que vous avez pu écouter sur RCF, eh bien, c'est une émission aujourd'hui sur la solidarité. Jusqu'où peut-on aider les autres? Et nous ont rejoint maintenant, eh bien, Océane et Sydney pour notre deuxième partie de cette émission. On a vu le collège, on a vu le lycée. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur en regardant le territoire national et notamment la forme d'engagement. Chaque jour, on s'engage dans ce que l'on fait, mais s'engager pour les autres, est-ce qu'on y pense chaque jour? Voilà, comment l'engagement se traduit-il? Donc déjà, une petite définition, Océane, de l'engagement.
Oui, s'engager, c'est donner un peu de soi, de son temps, c'est s'investir pour aider ceux qui en ont besoin.
Alors pour vous deux, Océane et Sydney, en quoi est-ce important pour vous l'engagement?
Il faut être solidaire, il faut toujours aider les autres, ne pas penser qu'à soi-même.
Tout le monde peut s'engager pour l'autre à travers une main tendue, à travers quelque chose d'immatériel, hein, comme je le disais. Mais au final, on peut aussi donner à travers quelque chose de matériel, parce qu'on y est souvent obligé avec nos impôts. J'aimerais aborder ce thème-là des impôts, parce que c'est une forme d'engagement. Et également, on donne de l'argent à l'État qui s'en sert ensuite pour le bien collectif. À votre avis, notre argent, quand on en donne à l'État, il est ensuite utilisé dans quelle structure? Sydney, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus sur ces structures-là de l'État?
L'État, il reverse l'argent aux écoles, à l'armée, à la sécurité sociale, à l'écologie et d'autres structures.
Alors, on fait preuve de solidarité chaque jour, chaque mois en payant des impôts, mais pourquoi, Océane?
L'impôt est redistribué pour servir à tous.
Madame Tiblier, pour conclure un petit peu cette partie, l'engagement, c'est une religion pour le secours populaire, comme l'engagement.
Une de nos plus grandes valeurs, donc la solidarité et l'engagement, forcément. Tant ce que vous avez dit, vous dites donner un peu de soi, c'est de son temps, mais donner, c'est énormément recevoir. Donc ça, c'est plus important que tout. Et nous, ce qu'on met en place au secours populaire, c'est vraiment un échange. Il ne peut pas y avoir d'action de donner ou de recevoir sans qu'il y ait un échange réel et sincère.
RCF. La joie se partage.
Et donc, un nouveau groupe nous a rejoint. Il s'agit de Arthur, de Mélissa, de Margot et de Farah. Et on va donc amorcer le côté un peu religieux maintenant de la solidarité. Un concept, une loi presque de tout temps dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et on va commencer d'ailleurs avec cette dernière, avec le christianisme. Nous sommes encore en carême, comme vous le savez. Et le carême, c'est une vraie forme de solidarité, n'est-ce pas, Mélissa? Définis-nous un peu ce terme.
Pendant le carême, les chrétiens font la prière est vécue de façon très intérieure avec Dieu.
Donc ça, c'est le carême. Ensuite, il y a aussi le jeûne.
Il jeûne, ce qui consiste à se priver volontairement, totalement ou en partie, de nourriture ou de ce qui prend beaucoup de place, comme l'ordinateur, la télévision.
Alors ça, c'est dans le carême. On a donc le jeûne, mais on a aussi le partage, une notion de partage aussi qui est importante.
Le partage, c'est l'acte de générosité envers les personnes en difficulté. Il les aide matériellement et pour leur donner de l'amitié.
Très bien, secours populaire, secours catholique également, Emmaüs, ça, toutes ces formes-là, elles sont importantes. On en parlera en fin d'émission avec notamment l'abbé Pierre, un personnage aussi important avec évidemment Emmaüs. Maintenant, on passe du côté des musulmans. Il y a aussi donc un jeûne, on avait le carême du côté des chrétiens, et c'est le ramadan, à une autre période de l'année. Il y a quelque chose de différent. Il y a aussi en tout cas cette notion de partage dans le ramadan. Farah, définis-nous un peu... ce qu'est le ramadan pour toi?
Donc le ramadan, c'est un mois de jeûne pour les musulmans. Les musulmans partagent leurs richesses aux plus pauvres et partagent un moment de convivialité avec leur famille également pour pouvoir se rapprocher plus de Dieu.
Alors ce partage, cette aumône, on la retrouve aussi de tout temps dans le temps du calendrier avec la zakat. Qu'est-ce que c'est que la zakat, Farah?
La zakat, c'est le troisième pilier de l'islam, donc l'aumône. La zakat est obligatoire à faire tous les ans pour les musulmans. Et ce pilier insiste à la nécessité de partager ses biens, donc sa richesse, avec les plus pauvres afin de se purifier devant Allah. Et le zakat est obligatoire à faire pour tous les efforts au nom de tous les musulmans.
Et aussi un autre terme que j'aimerais que tu définisses, sadaka.
La sadaka, c'est un encouragement, un don volontaire d'un homme aux pauvres afin de se renforcer ses relations avec les autres et avec Allah.
Puis on va terminer avec la troisième religion, la religion judaïque, avec encore une fois un très fort penchant pour l'aide aux pauvres. Deux termes qui ont retenu notre attention, tzedaka, gemilut. Vas-y, dis-moi Arthur, tzedaka.
La tzedaka, c'est un don que l'on fait aux pauvres chez les juifs. Il y a des œuvres caritatives pour donner la tzedaka.
Et le guémilout ?
Le guémilout, c'est un mode de soutien qui ne comporte pas d'argent. Ça consiste à aller voir les malades et les réconforter. Ça se fait donc aussi bien chez les riches que chez les pauvres.
Très bien, et puis on va terminer cette partie avec une note un peu légère, avec une histoire à nous raconter, et c'est donc Margot qui va nous la raconter pour terminer un peu cette partie avant de se retourner vers Myriam Tiblier. Dis-moi Margot, t'as une histoire à nous raconter pour terminer un peu là-dessus, c'est quoi, c'est la parabole?
La parabole, c'est l'histoire d'un homme qui est en voyage, il est alors agressé, volé et laissé pour mort. Arrivent alors plusieurs hommes, les deux premiers sont des juifs et le troisième est un samaritain. Les deux premiers le regardent et le délaissent. Le troisième est bouleversé et prend soin de lui en le soignant et en emmenant dans une auberge. Le sens de la parabole est qu'il faut prendre soin de son prochain.
Madame Tiblier, ça vous inspire quoi cette parabole?
Je crois que ce sera le sujet où je pourrais parler pendant des heures. Alors je vais juste parler un petit peu de mon histoire personnelle. Je pense que c'est important. J'ai un papa qui est musulman pratiquant, une maman qui est athée, et moi je suis catholique. Et je le vis bien. Je le dis tout le temps, nous on travaille très souvent avec la mosquée. On fait des choses formidables tous ensemble, parce que la pauvreté, la solidarité, encore une fois, je le tiens, enfin je le dirai, ça sera mon cheval de bataille. Ça n'a pas de religion, ça c'est des bêtises ça. Il n'y a pas une église, il n'y a pas une mosquée ou quoi que ce soit qui fait plus que les autres. Quand c'est donné avec son cœur, c'est donné avec plein de valeurs. La solidarité, elle peut être pour tout le monde. Elle peut être aussi bien pour Margot parce qu'elle va dire un petit bonjour à quelqu'un qui est assis dans la rue, qu'à toi par exemple qui va partager le bout de ton sandwich avec un camarade. C'est ça la solidarité. Je vous trouve formidable parce que vous vous penchez sur des sujets d'actualité. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'oubliez jamais que la personne qui est en face, ça pourrait être vous.
Allez, on enchaîne maintenant avec un autre groupe, une autre partie. On va sortir un peu du côté religieux parce que vous l'avez dit finalement, la solidarité elle est partout. Mais la solidarité, justement, elle est jusqu'où? Est-ce qu'on peut aider les autres sans limite? Est-ce qu'il n'y a pas des lois quand même qui peuvent régir tout ça, réglementer tout ça? Avec Jules, Romain, Rémi, Esteban et Théo. Certaines personnes en France qui avaient fait preuve de solidarité, qui n'ont pas été toujours autorisées, en tout cas dans le cadre législatif. Rémi, Jules, deux exemples de vie qui ont vraiment eu lieu. Des personnes condamnées pour avoir aidé une personne ou un groupe de personnes, c'est même dans l'actualité récente. On commence avec toi, Rémi.
Déjà, le mien n'a pas été condamné. Le 4 janvier 2017, le père Giffard, on a découvert qu'il accueillait des migrants dans la salle paroissiale de l'église de Montréno à Saint-Étienne. Donc 29 d'entre eux vont être relogés. Il y en a 15 qui vont être en asile de nuit et 24 qui vont malheureusement être mis à la rue.
On enchaîne avec Jules cette fois-ci. Jules a une autre personne, un autre portrait.
C'est l'agriculteur Cédric Héroux. Il a été accusé d'avoir aidé des migrants à franchir la frontière qui sépare la France de l'Italie. Il a été condamné à 30 000 euros d'amende avec sursis.
On a les deux cas concrets, on va pouvoir travailler là-dessus sur ces deux études de cas. Théo, pourquoi a-t-on condamné Cédric Héroux?
Il a hébergé et aidé 200 migrants, il risquerait 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Romain, tu voulais apporter un autre éclairage, un regard humain sur ce que l'on constate par rapport aux deux histoires là, que l'on a écoutées.
Je pense que les condamnations sont injustes pour ceux qui aident les migrants, car ils ont aidé des gens, donc c'est bien. Mais ces migrants n'ont pas de papier, donc ils sont clandestins. Mais quand même, ils sont en danger, mal nourris, mal soignés. Il faut les aider.
Esteban, toi, tu souhaitais compléter un peu l'analyse de Romain avec notamment les délinquants solidaires. Tu voulais aborder ce thème-là.
Les délinquants solidaires, ce sont des gens qui aident les étrangers, mais qui n'ont pas le droit. Ces gens-là réclament en fait la suppression d'une loi qui les empêche et donc qui leur met 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Cédric Héroux fait partie justement de ces délinquants solidaires-là.
Oui, oui, c'est un peu comme le père Giffard.
Myriam Tiblier, à travers cet exemple, vous, au Secours Populaire, vous les connaissez, ces règles-là, ces lois-là, parce qu'il faut faire attention quand même avant d'aider quelqu'un. Alors là, on rentre, on va dire, dans une grande échelle un peu quand même. C'est pas un petit geste que l'on donne. Là, c'est vraiment une grosse aide, un gros soutien.
Alors le père Giffard, je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui sur l'asile de nuit, justement. Il faut faire très attention quand on est travailleur social comme nous, parce que notre cœur parfois l'emporte et qu'on est un petit peu amené à faire un peu n'importe quoi. Et ça, on ne le doit pas, puisque c'est un petit peu comme si on prêtait un petit peu sermon. On doit respecter la liberté, le respect de l'autre et lui laisser sa dignité. Ça veut dire ne pas faire les choses à sa place, mais aussi se dire que quand il est ici dans des situations illégales, il ne faut pas en rajouter, parce qu'on se crée des problèmes à nous et on lui en crée à lui. Donc nous, concrètement, au Secours Populaire, on a un réseau qui fonctionne très bien, qui fonctionne aussi avec la justice. On fait le maximum, on ne juge surtout pas leur situation, mais on envoie aux autres associations quand ça devient difficile.
Et ce travail-là, il est quotidien? Quand vous réveillez le matin, vous pensez un peu à ça aussi?
Moi, je suis souvent en colère quand j'entends parler des migrants, donc je devrais peut-être pas le dire, mais bon, je suis quelqu'un d'assez
Allez-y, on se dit tout sur RCF.
Moi, je me dis que souvent, ils ont des situations tellement difficiles. On les accueille en France, on n'est pas digne de les accueillir correctement parce qu'il y a plein de choses qui manquent et il y a plein de choses qui ne suivent pas. Et souvent, ils arrivent, ils ne parlent pas français, ils n'ont aucun papier, ils ne savent pas dans quelles conditions ils vivent. C'est difficile pour nous parce que finalement, on se sent impuissant. Donc, on essaie de leur donner un petit peu de sourire et un petit peu d'attention. C'est déjà beaucoup, mais...
Est-ce que ce n'est pas là, justement, le moment là, pour interpeller? Parce qu'on arrive à des grandes échéances, malgré tout, électorales. C'est le moment, le thème là, où il faut interpeller?
Alors, nous, on a une chance inouïe, Saint-Chamond et Savallier. On arrive à travailler étroitement avec les pouvoirs politiques. Donc ça, c'est important. Ils nous entendent. Moi, je suis une ex-éducatrice au SAMU social. La misère dans la rue, ça, je connais.
Vous la connaissez, ouais.
Exactement. Je continuerai, enfin, jusqu'à que j'arrête de bosser là-dedans et encore, à dire que voilà, si on fait quelque chose pour quelqu'un, c'est vraiment pour lui apporter un peu plus de positif. Si c'est pour le laisser dans sa galère, lui dit « bah ouais, t'es dans la galère », oui, bah non, on peut s'empêcher de lui dire ça. Il faut aussi se dire qu'on n'est pas des super-héros, donc on fera ce qu'on peut, mais en tout cas, on le fera avec notre cœur.
RCF, la joie se partage.
De retour ici dans notre émission Chrétien en marche pour la dernière partie de cette émission spéciale « Jusqu'où peut-on aider les autres ?» en pleine période du carême, encore aujourd'hui le 6 avril. Dernière partie avec Pierre, Valentin, Léo, Mathéo. Donc on avait vu dans le respect des lois, aider les autres, mais maintenant aider les autres dans le respect aussi de la personne. 141 500, c'est le nombre de SDF en France. Faire preuve de solidarité envers les SDF, c'est bien, mais toujours dans le respect de la personne, surtout quand cette personne-là, eh bien, elle était comme nous. Voilà, comme aussi avait dit Myriam Tiblier, n'oubliez pas que ça peut être vous aussi dans quelques années, cette personne-là que vous aidez. Boulot, famille, et tout d'un coup, patatras. Et quelles sont les causes là? Et on va démarrer donc avec Mathéo.
Perte d'un emploi, un divorce ou une expulsion de son logement. Ils peuvent être accueillis dans un centre d'hébergement. Là-bas, ils sont nourris, ils peuvent se faire soigner et se doucher.
Alors, dans une société où on laisse un peu le pauvre sur le bas-côté, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour encourager la personne à repartir d'un bon pied, à démarrer une nouvelle vie?
On a souvent un regard fuyant, mais il ne faut pas croire que ces gens ils sont là par leur faute. Mmh. Et du coup, bah, c'est compliqué, mais parce qu'il faut se mettre un peu à leur place aussi. Mais
en tout cas, un petit geste, en effet, ça peut aussi aider, comme on disait, un regard positif. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, Léo.
Donc, les SDF sont accueillis dans des centres d'hébergement, mais ils sont souvent... saturés et pas très confortables. Les SDF ne veulent pas tous aller dans les centres d'hébergement parce qu'ils ne veulent pas perdre leur trottoir, le lien qu'ils ont lié avec les habitants.
Et c'est là où le tissu associatif peut être important aussi. Avant de clore cette partie, on va se recentrer sur l'actualité parce que, comme je disais, dans le respect de la personne, mais aussi au-delà des SDF, une autre forme de solidarité, par exemple le don d'organes. Donc là, on passe complètement à autre chose. On est tous donneurs d'organes désormais, ça fait partie aussi de cette solidarité-là depuis la loi du 1er janvier 2017. Est-ce que tu peux nous la rappeler, cette loi?
Donc, la loi du 1er janvier 2017, chaque Français est donneur d'organes par défaut. Et si une personne veut refuser d'être donneur, elle doit remplir un formulaire et le signer. Sa famille, elle ne pourra pas intervenir sur son choix.
Voilà, et donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2017. Avec Myriam, maintenant, Tiblier, comme je le disais, 9 millions de pauvres en France.
Oui, on va enlever le mot pauvre. Situation difficile, ni démunis, ni pauvre.
Parce que les médias l'utilisent beaucoup.
On peut être pauvre de plein de choses. Moi, je suis nulle en maths et je peux être pauvre en maths finalement. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que tu as très bien dit, Pierre, un regard, encore un sourire et un bonjour. Nous, on a des gens qui viennent chez nous, qui sont SDF, effectivement, qui ne peuvent plus se laver, qui ne peuvent plus parler avec personne. Il y a beaucoup de précarité, mais il y a une précarité qui est très difficile, c'est la solitude. Des fois, c'est un peu un regard de pitié, c'est un peu un regard d'incompréhension. Essayez à l'avenir de ne plus le faire et aux gens qui vous accompagnent, de lui dire, tu sais, ça pourrait être aussi toi. Malheureusement, on a 80 possibilités d'hébergement et 250 de personnes qui voudraient être hébergées. Un SDF, comment il devient SDF? Si je peux vous parler d'un cas qui me revient en tête, c'est un monsieur qui s'appelait Bernard. Et j'aimais beaucoup aller le rencontrer le vendredi soir, prendre un petit café avec lui. Et on discutait et moi j'étais estomaquée parce que ce monsieur, on est au CDI, ça tombe bien, il connaissait tous les pays sur le bout des doigts et moi j'avais l'air bête en face. Puis un jour je lui dis, mais c'est pas possible, vous avez fait que ça, voyager. Et il m'a répondu oui à travers des livres. Donc ça veut dire qu'il avait une richesse que j'aurais jamais soupçonnée.
Il y a un exemple comme quoi on n'est pas pauvre justement.
C'est pour ça que je voulais en revenir. Et ce monsieur-là, il a été victime d'une séparation. Et puis après, il a tout perdu. Comme comme il a dit, lorsque j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu.
Vous êtes toujours sur RCF Saint-Étienne pour cette émission Chrétien en marche. Lorena, Manon, Margot, Chiara et Sarah qui vont venir nous rejoindre avec ce point final de cette émission avec trois figures de la solidarité. Une d'abord célèbre, donc je l'avais dit en début d'émission, c'est l'abbé Pierre, et puis deux autres figures anonymes qui ont contribué à leur façon à la solidarité. Alors tout d'abord, première figure anonyme, on va démarrer par ça, par une infirmière engagée. Tu voulais nous parler de cette histoire-là, de Cathy, donc infirmière engagée. Lorena, vas-y.
Cathy est une infirmière engagée dans l'association Médecins Sans Frontières. Elle a choisi de partir en Afrique pour aider les personnes les plus pauvres, apporter son aide pour soigner les enfants qui auraient pu mourir sans son aide. Son choix est une forme de solidarité car elle aide beaucoup d'enfants à mieux vivre, mais surtout à survivre en les soignant dans ce pays très pauvre.
Deuxième figure cette fois-ci, celle donc célèbre, comme je le disais, c'est bien sûr l'abbé Pierre. On en a tous évidemment entendu parler, même vous évidemment, une figure de la charité, de l'aumône. Deux mots là-dessus, c'est Margot, vas-y.
L'abbé Pierre est le cinquième d'une famille de 8 enfants. À 19 ans, il entre dans un monastère. Pendant la guerre, il devient résistant en aidant les Juifs. Après la guerre, l'abbé Pierre fonde une association appelée Emmaüs pour aider les pauvres.
Deuxième figure anonyme, cette fois-ci après Cathy, l'infirmière engagée, on a un jardinier qui lui aussi va faire preuve de solidarité. C'est Afid et c'est donc Chiara.
C'est un jardinier qui apprend aux chômeurs à se réintégrer à la société. Après, ces chômeurs, ils reprennent confiance en eux et il y a la moitié d'entre eux qui retrouvent du travail. Pas forcément dans le domaine de la jardinerie.
Ouais. Trois cas particuliers, deux personnages célèbres et deux personnages anonymes qui ont fait preuve de solidarité. Et c'est Mère Teresa, évidemment, j'ai failli l'oublier, mais elle est tellement importante, tout aussi importante que l'abbé Pierre. Mère Teresa, du coup, avec Sarah. Vas-y, Sarah.
Elle a commencé en Inde, à Calcutta, où elle a fondé plusieurs centres pour accueillir et prendre soin d'eux. Il y a des jeunes qui viennent du monde entier pour continuer
À perpétuer cette action-là.
Oui.
Ça veut dire qu'on peut tous s'engager, on peut agir pour une société plus solidaire, plus juste. Et on va terminer par ça, par lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte, c'est ça, c'est vraiment la nouvelle mode, on va dire, c'est le nouveau mot un peu à la mode actuellement. On agit pour une société plus solidaire, plus juste. Lanceurs d'alerte, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Manon qui va nous le dire.
Ce sont des personnes qui préviennent des menaces dans leur domaine, le plus souvent environnemental ou médical. Ils agissent au nom de la démocratie et de leur liberté individuelle, mais la loi ne protège que les salariés. Dans l'ensemble, ils sont seuls et ils doivent financer leur défense.
Myriam Tibi, on va terminer par vous. On a senti que à travers ces portraits, cette mobilisation générale, c'est la clé, Myriam Tibi, pour la solidarité.
C'est ça. Bah écoutez, vous êtes des bons lanceurs d'alerte. Nous, on est aussi prêts à vous accueillir si vous voulez venir passer une petite heure avec nous, voir un petit peu ce qui se fait et se rendre compte concrètement de ce qui existe. Parce que là, vous allez repartir, vous avez plein d'infos dans votre tête, puis un peu vous oublierez, puis après vous reviendrez. Mais si vous avez un petit peu de temps, c'est avec plaisir. Et moi, je terminerai juste par une citation de Saint François qui dit que là où il y a de la haine, on y met de l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Et là où il y a de la discorde, que je mette l'union.
Merci à vous aux cinq d'être là dans le groupe et merci surtout à toute la classe. Vous pouvez vous applaudir parce que vous avez été exceptionnels. Voilà.
Merci beaucoup.
Vous avez été très bon. Merci à Marianne Tibier, bien sûr, d'être venue. Et merci aux documentalistes aussi hein, qui ont contribué à cette organisation-là. Merci à Moane à la technique et à très bientôt en tout cas, pour une nouvelle émission de Chrétien en marche sur RCF Saint-Étienne.